Prosper Mérimée, Les voleurs. Monsieur, Madrid de novembre 1830. Me voici de retour à Madrid, après avoir parcouru pendant plusieurs mois et dans tous les sens l'Andalousie, cette terre classique des voleurs, sans en rencontrer un seul. J'en suis presque honteux. Je m'étais arrangé pour une attaque de voleurs, non pas pour me défendre, mais pour causer avec eux et les questionner bien poliment sur leur genre de vie. En regardant mon ami usé au coude et mon mince bagage, je regrette d'avoir manqué ces messieurs. Le plaisir de les voir n'était pas payé trop cher par la perte d'un léger porte-manteau. Mais si je n'ai pas vu de voleurs, en revanche, je n'ai pas entendu parler d'autre chose. Les postillons, les aubergistes vous racontent des histoires lamentables de voyageurs assassinés, de femmes enlevées à chaque halte que l'on fait pour changer de mule. L'événement qu'on raconte s'est toujours passé la veille et sur la partie de la route que vous allez parcourir. Le voyageur qui ne connaît point encore l'Espagne et qui n'a point eu le temps d'acquérir la sublime insouciance castillane, la flemma castellana, quoique crédule qu'il soit d'ailleurs, ne laisse pas de recevoir une certaine impression de tous ces récits. Le jour tombe, et avec beaucoup plus de rapidité que dans nos climats du Nord, et ici le crépuscule ne dure qu'un moment. Survient alors, surtout dans le voisinage des montagnes, un vent qui serait sans doute chaud à Paris, mais qui, par la comparaison que l'on fait avec la chaleur brûlante du jour, vous paraît froid et désagréable. Pendant que vous vous enveloppez dans votre manteau, que vous enfoncez sur vos yeux votre bonnet de voyage, vous remarquez que les hommes de votre escorte, escopeteros, jettent la morse de leurs fusils sans la renouveler. Étonné de cette singulière manœuvre, vous en demandez la raison, et les braves qui vous accompagnent répondent du haut de leur impériale où ils sont perchés, qu'ils ont bien tout le courage possible, mais qu'ils ne peuvent pas résister seuls à toute une bande de voleurs. Si l'on est attaqué, nous n'aurons de quartier qu'en prouvant que nous n'avons jamais eu l'intention de nous défendre. Alors à quoi bon s'embarrasser de ces hommes et de leurs inutiles fusils ? Oh, mais ils sont excellents contre les rateros, c'est-à-dire les amateurs brigands qui détroussent les voyageurs quand l'occasion se présente. On ne les rencontre jamais qu'au nombre de 2 ou 3. Le voyageur se repent alors d'avoir pris tant d'argent sur lui. Il regarde l'heure à sa montre de Breguet et qu'il croit à consulter pour la dernière fois. Il serait bien heureux de la savoir tranquillement pendue à sa cheminée de Paris. Il demande au mayoral conducteur si les voileurs prennent les habits des voyageurs. « Oh, quelquefois, monsieur. Le mois passé, la diligence de Séville a été arrêtée auprès de la Carlotta. Tous les voyageurs sont entrés à Rincha comme de petits anges. »« Des petits anges, que voulez-vous dire ?»« Ben, je veux dire que les bandits leur avaient pris tous leurs habits. Ils ne leur avaient pas même laissé la chemise. »« Diable !» s'écrie le voyageur en boutonnant sa redingote. Mais il se rassure un peu et sourit même en remarquant une jolie Andalouse en compagne de voyage qui baisse dévotement son pouce en soupirant « Jésus, Jésus !» On sait que ceux qui baissent leur pouce après avoir fait le signe de la croix ne manquent pas de s'en trouver bien. La nuit est tout à fait venue, mais heureusement, la lune se lève brillante sur un ciel sans nuages. On commence à découvrir de loin l'entrée d'une gorge affreuse qui n'a pas moins d'une demi-lieue de longueur. Mayoral, est-ce là l'endroit où l'on a déjà arrêté la diligence ? Oui, monsieur, et tu es un voyageur. Postillon, poursuivit le mayoral, ne fais pas claquer son fouet de peur de les avertir. Qui ? Demande le voyageur. « Ben, les voleurs !» répond le mayoral. Diable ! S'écrie le voyageur. Monsieur, regardez donc là-bas, au tournant de la route. Sont-ce pas des hommes ? Ils se cachent dans l'ombre de ce grand rocher. Oui, madame, un, deux, trois, six hommes à cheval. Ah, Jésus, Jésus ! Signe de croix et baissement de pouce. Mayoral, voyez-vous là-bas ? Oui. Oh, voici un qui tient un grand bâton, peut-être un fusil. C'est un fusil. Croyez-vous que ce soit de bonnes gens, buena gente ? Demanda avec anxiété la jeune Andalouse. Qui sait ? Répond le mayoral en haussant les épaules et abaissant les coins de sa bouche. Alors que Dieu nous pardonne à tous ! Et elle se cache sa figure dans le gilet du voyageur, doublement ému. La voiture va comme le vent, 8 mules vigoureuses au grand trot. Les cavaliers s'arrêtent, ils se forment sur une ligne. C'est pour barrer le passage. Non ! Ils s'ouvrent. 3 prennent à gauche, 3 à droite de la route. C'est qu'ils veulent entourer la voiture de tous les côtés. Postillon, arrêtez vos mules. Si cela vous le commande, n'allez pas nous attirer une volée de coups de fusil. Soyez tranquille, monsieur. Je suis plus intéressé que vous. Enfin, l'on est si près que déjà l'on distingue les grands chapeaux, les selles turques et les guêtres de cuir blanc des 6 cavaliers. Si l'on pouvait voir leurs traits, quels yeux, quelle barbe, quelle cicatrice on apercevrait. Il n'y a plus de doute, ce sont des voleurs, car ils ont tous des fusils. Le premier voleur touche le bord de son grand chapeau et dit d'un ton de voix grave et doux. « Vayan vas con Dios !»« Allez avec Dieu !» C'est le saint que les voyageurs échangent sur la route. « Vayan vas con Dios !» disent à leur tour les autres cavaliers, s'écartant poliment pour que la voiture passe, car ce sont d'honnêtes fermiers attardés au marché des Syrahs qui retournent dans leur village et qui voyagent en troupes et armées par suite de la grande préoccupation des voleurs dont j'ai déjà parlé. Après quelques rencontres de cette espèce, on arrive promptement à ne plus croire du tout aux voleurs. On s'accoutume si bien à la mine un peu sauvage des paysans que les brigands véritables ne vous parleraient pas plus que d'honnêtes aboureurs qui n'ont pas fait leur barbe depuis longtemps. Un jeune Anglais avec qui j'ai lié connaissance à Grenade avait longtemps parcouru sans accident les plus mauvais chemins de l'Espagne. Il en était venu à nier opiniâtrement l'existence des voleurs. Un jour, il est arrêté par 2 hommes de mauvaise mine armés de fusils. Il s'imagina aussitôt que c'étaient des paysans en gaieté qui voulaient s'amuser à lui faire peur. À toutes leurs injonctions de donneur donner de l'argent, il répondait en riant et en disant qu'il n'était pas leur dupe. Il fallut pour le tirer d'erreur qu'un des véritables bandits lui donna sur la tête un coup de rosse, crosse dont il montrait encore la cicatrice 3 mois après. Excepté quelques cas fort rares, les brigands espagnols ne maltraitent jamais les voyageurs. Souvent, ils se contentent de leur enlever l'argent qu'ils ont sur eux, sans ouvrir leur malle ou même sans les fouiller. Pourtant, il ne faut pas s'y fier. Un jeune élégant de Madrid se rendait à Cadiz avec 2 douzaines de belles chemises qu'il avait fait venir de Londres. Les brigands l'arrêtent auprès de la Carolina et après lui avoir pris les onces qu'il avait dans sa bourse, sans compter les bagues, chaînes, souvenirs amoureux qu'un homme aussi répandu ne pouvait manquer d'avoir, le chef des voleurs lui fit remarquer poliment que le linge de sa bande, obligé qu'elle était d'éviter les endroits habités, avait grand besoin de blanchissage. Les chemises sont déployées, admirées, et le capitaine disant, comme Ali du Sicilien, « Entre cavaliers, telle liberté est permise », en mit quelques-unes dans son bissac, puis ôta les noires guenilles qu'il portait depuis 6 semaines au moins, et se couvrit avec joie de la plus belle bâtisse de son prisonnier. Chaque voleur en fit autant, en sorte que l'infortuné voyageur se trouva d'un instant dépouillé de toute sa garde-robe et en possession d'un tas de chiffons qu'il n'aurait pas osé toucher du bout de sa canne. Encore lui fallut-il endurer les plaisanteries des brigands. Le capitaine, avec ce sérieux goguenard que les Andalous affectent si bien, lui dit en le congédiant qu'il n'oublierait jamais le service qu'il venait de recevoir, qu'il s'empresserait de lui rendre les chemises qu'il avait bien voulu lui prêter, et qu'il reprendrait les siennes aussitôt qu'il aurait l'honneur de le revoir. « Surtout, ajouta-t-il, n'oubliez pas de faire blanchir les chemises de ces messieurs, nous les reprendrons à votre retour à Madrid. » Le jeune homme qui me racontait ce vol dont il avait été la victime m'avouait qu'il avait plutôt pardonné aux voleurs l'enlèvement de ses chemises que leur méchante plaisanterie. À différentes époques, le gouvernement espagnol s'est occupé sérieusement de purger les grandes routes des voleurs qui, depuis un temps immémorial, sont en possession de les parcourir. Et ces efforts n'ont jamais pu avoir des résultats définitifs. Une bande a été détruite, mais une autre s'est formée aussitôt. Quelquefois, un capitaine général est parvenu à force de soins à chasser tous les voleurs de son gouvernement, mais alors les provinces voisines en ont regorgé. La nature du pays, hérissée de montagnes, sans route frayée, rend bien difficile l'entière destruction des brigands. En Espagne, comme dans la Vendée, il y a un grand nombre de métairies isolées, aldeas, éloignées de plusieurs milles de tout endroit habité. En garnisonnant toutes ces métairies, tous les petits hameaux, on obligerait promptement les voleurs à se livrer à la justice, sous peine de mourir de faim. Mais où trouver assez d'argent, assez de soldats? Les propriétaires des aldeas sont intéressés, on le sent, à conserver de bons rapports avec les brigands, dont la vengeance est redoutable. Et d'un autre côté, ceux-ci, qui comptent sur eux pour leur subsistance, les ménages, leur paient bien les objets dont ils ont besoin, et quelquefois même les associent au partage du butin. Il faut encore ajouter que la profession de voleur n'est point regardée généralement comme déshonorante. Voler sur les grandes routes aux yeux de bien des gens, c'est faire de l'opposition, c'est protester contre les lois tyranniques. Or, l'homme qui n'ayant qu'un fusil se sent assez de hardiesse pour jeter le défi à un gouvernement, c'est un héros que les hommes respectent et que les femmes admirent. Il est glorieux, certes, de pouvoir s'écrier, comme dans la vieille romance, « A todos los desafío, pues a male tengo miedo. » Un voleur commence en général par être contrebandier. Son commerce est troublé par les employés de la douane. C'est une injustice criante pour les 9/10 de la population que l'on tourmente un galant homme qui vend à bon compte de meilleurs cigares que ceux du roi, qui apporte aux femmes des soieries, des marchandises anglaises et tout le commérage de 10 lieues à la ronde. Qu'un douanier vienne à tuer ou à prendre son cheval, voilà le contrebandier ruiné. Il a d'ailleurs une vengeance à exercer. Il se fait voleur. On demande ce qu'est devenu un beau garçon qu'on a remarqué quelques mois auparavant et qui était le coq de son village. « Hélas !» répond une femme, « on l'a obligé de se jeter dans la montagne. C'est pas sa faute, pauvre garçon. Il était si doux. Dieu le protège. » Les bonnes âmes rendent le gouvernement responsable de tous les désordres commis par les voleurs. « C'est lui, dit-on, qui pousse à bout les pauvres gens qui se demandent qu'à rester tranquilles et à vivre dans leur métier. » Le modèle du brigand espagnol, prototype du héros de grand chemin, le Robin Hood, le Roc Guimard de notre temps. C'est le fameux José María, surnommé El Tempranito, le matinal. C'est l'homme dont on parle le plus de Madrid à Séville et de Séville à Malaga. Pauvre, brave, courtois, autant qu'un voleur peut l'être, tel est José María. S'il arrête une diligence, il donne la main aux dames pour descendre de voiture, comme on va le voir, car il s'introduisit la nuit chez une demoiselle de bonne famille. L'amour fait, dit-on, excusez bien les choses, mais on parle de violence, d'un domestique blessé. Oh, je n'ai jamais pu tirer cette histoire au clair. Le père fit grand bruit, et un procès criminel fut commencé. José María fut obligé de prendre la fuite et de s'exiler à Gibraltar. Là, comme l'argent lui manquait, il fit marcher avec un négociant anglais pour introduire en contrebande une forte partie de la marchandise prohibée. Il fut trahi par un homme à qui il avait fait confidence de son projet. Les douaniers, sur la route qu'il devait tenir, et s'embusquèrent sur son passage. Tous les mulets qu'il conduisait furent pris. Mais il ne les abandonna qu'après un combat acharné dans lequel il tua ou blessa plusieurs douaniers. Dès ce moment, il n'eut plus d'autre ressource que de rançonner les voyageurs. Un bonheur extraordinaire l'a constamment accompagné jusqu'à ce jour. Sa tête est mise à prix. Son signalement est affiché à la porte de toutes les villes, avec promesse de 8000 réaux à celui qui le livrera mort ou vif. Fut-il un de ses complices? Pourtant, José María continue impunément son dangereux métier, et ses courses s'étendent depuis les frontières de Portugal jusqu'au royaume de Murcie. Sa bande n'est pas nombreuse, mais elle est composée d'hommes dont la fidélité et la résolution sont depuis longtemps éprouvées. Un jour, à la tête d'une douzaine d'hommes de son choix, il surprit à la Venta de Casines 70 volontaires royalistes envoyés à la poursuite, et se désarma tous. On le vit ensuite regagner les montagnes à pas lents, chassant devant lui deux mulets chargés de 70 escopettes qu'il emportait comme pour en faire un trophée. On compte des merveilles de son adresse à tirer à balle. Sur un cheval lancé au galop, il touche un tronc d'olivier à 150 pas. Le trait suivant fera connaître à la fois son adresse et sa générosité. Un capitaine Castro, officier rempli de courage et d'activité, qui poursuit, dit-on, les voleurs autant pour satisfaire une vengeance personnelle que pour remplir son devoir de militaire, apprit par un de ses espions que José María se trouverait un jour tel dans une aldea écartée où il avait une maîtresse. Castro, au jour indiqué, monte à cheval, et pour ne pas éveiller les soupçons en mettant trop de monde en campagne, il ne prend avec lui que 4 lanciers. Quelques précautions qu'il mit en usage pour cacher sa marche, il ne put si bien faire que José María en fut instruit. Et au moment où Castro, après avoir passé une gorge profonde, entrait dans la vallée où était située l'aldea de la maîtresse de son ennemi, 12 cavaliers bien montés paraissent tout à coup sur son flanc et beaucoup plus près que lui de la gorge par où seulement il pouvait faire sa retraite. Les lanciers se crurent perdus. Un homme monté sur un cheval bai se détache au galop de la troupe des voleurs et arrête son cheval tout court à 100 pas de Castro. On ne surprend pas José María, s'écria-t-il. Capitaine Castro, mais que vous ai-je fait pour que vous vouliez me livrer à la justice? Je pourrais vous tuer, mais les hommes de cœur sont devenus rares. et je vous donne la vie. Voici un souvenir qui vous apprendra à m'éviter. À votre shako. » En parlant ainsi, il l'ajuste, et d'une balle, il traverse le haut du shako du capitaine. Aussitôt, il tourne à bride et disparut avec ses gens. Voici un autre exemple de sa courtoisie. On célébrait une noce dans une métairie des environs d'Andoukhar. Les mariés avaient déjà reçu les compliments de leurs amis, et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Chacun était en disposition de bien faire. Les émanations des jasmins et des orangers en fleurs se mêlaient agréablement aux parfums plus substantiels s'exhalant de plusieurs plats qui faisaient plier la table sous leur poids. Et tout d'un coup, parut un homme à cheval sortant d'un bouquet de bois à portée de pistolet de la maison. L'inconnu sauta lentement à terre, salua les convives de la main et conduisit son cheval à l'écurie. On n'attendait personne, mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D'ailleurs, l'étranger, par ses habillements, paraissait être un homme d'importance. Le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Pendant que l'on se demandait tout bas quel était cet étranger, le notaire d'Andoukhar, qui assistait à la noce, était devenu pâle comme la mort. Il essayait de se lever de la chaise qu'il occupait auprès de la mariée, mais ses genoux pliaient sous lui et ses jambes ne pouvaient plus le supporter. Un des convives, soupçonné depuis longtemps de s'occuper de contrebande, s'approcha de la mariée. « C'est José Maria, » dit-il. « Je me trompe fort ou il vient ici pour faire quelque malheur ?»« Para hacer un muerte. »« C'est au notaire qu'il en veut, mais que faire ? Le faire échapper ?»« Impossible, José Maria l'aurait bientôt rejoint. »« Arrêter le brigand ? » ?»« Mais sa bande est sans doute aux environs. » D'ailleurs, il porte des pistolets à sa ceinture et son poignard ne le quitte jamais. Mais, monsieur le notaire, que lui avez-vous donc fait ? Hélas, rien, absolument rien. Quelqu'un murmura tout bas que le notaire avait dit à son fermier 2 mois avant que si José Maria venait jamais lui demander à boire, il devrait mettre un gros d'arsenic dans son vin. On délibérait encore sans entamer la holla, quand l'inconnu reparut, suivi du marié. Plus de doute, c'était José Maria. Il jeta en passant un coup d'œil de tigre au notaire, qui se mit à trembler comme s'il avait eu le frisson de la fièvre. Puis il salua la mariée avec grâce et lui demanda la permission de danser à sa noce. Elle n'eut garde de refuser ou de lui faire mauvaise mine. José Maria prit aussitôt un tabouret de liège, l'approcha de la table et s'assit sans façon à côté de la mariée. Entre elle et le notaire, qui paraissait à tout moment sur le point de s'évanouir. On commença à manger. José Maria était rempli d'attention et de petits soins pour sa voisine. Lorsqu'on servit du vin d'extra, la mariée, prenant un verre de Montilla, qui vaut mieux que le Jerez, selon moi, le toucha de ses lèvres et le présenta aussitôt au bandit. C'est une politesse que l'on fait à table aux personnes que l'on estime. Cela s'appelle una finezza. Malheureusement, cet usage se perd dans la bonne société, aussi empressée ici qu'ailleurs de se dépouiller de toutes les coutumes nationales. José Maria prit le verre, remercia avec effusion et déclara à la mariée qu'il la priait de le tenir pour son serviteur et qu'il ferait avec joie tout ce qu'elle voudrait bien lui recommander. Alors celle-ci, toute tremblante et se penchant timidement à l'oreille de son terrible voisin, « Accordez-moi une grâce, » dit-elle. « Mais mille !» s'écria José Maria. Oubliez, je vous en conjure, les mauvais traitements au couloir que vous avez peut-être apportés ici. Promettez-moi que pour l'amour de moi, vous pardonnerez à vos ennemis et qu'il n'y aura pas de scandale à Magnos. Notaire, dit Jorge de Maria, se tournant vers l'homme de loi tremblant, remerciez madame. Sans elle, je vous aurais tué avant que vous puissiez digérer votre dîner. N'ayez plus peur, je ne ferai plus de mal. Et lui versant un verre de vin, il ajouta avec un sourire un peu méchant, « Allô, notaire, à ma santé. Ce vin est bon, et il n'est pas empoisonné. » Le malheureux notaire croyait avaler un sang d'épingle. « Allô, enfant !» s'écria le bonheur, voleur, « de la gaieté. Vaya de Troma, vive la mariée !» Et se levant avec vivacité, il courut chercher une guitare et se mit à improviser un couplet en l'honneur de nos nouveaux époux. Bref, pendant le reste du dîner et le bal qui le suivit, il se rendit tellement aimable que les femmes avaient les larmes aux yeux en pensant qu'un aussi charmant garçon finirait peut-être un jour à la potence. Il dansa, il chanta, il se fit tout à tous. Vers minuit, une petite fille de 12 ans, à demi vêtue de mauvaise guenille, s'approcha de José Maria et lui dit quelques mots dans l'argot des bohémiens. José Maria tressaillit. Il courut à l'écurie, d'où il revint bientôt, emmenant son bon cheval. Puis, s'avançant vers la mariée, un bras passé dans la bride, « Adieu, dit-il, enfant de mon âme, hija de mi alma, jamais je n'oublierai les moments que j'ai passés auprès de vous. Ce sont les plus heureux que j'ai vus depuis bien des années. Soyez assez bonne pour accepter cette bagatelle d'un pauvre diable qui voudrait avoir une ruine, une mine à vous offrir. » Il lui présentait en même temps une jolie bague. José Maria, s'écria la mariée, tant qu'il y aura un pain dans cette maison, la moitié vous appartiendra. Le voleur serra la main à tous les convives, celle même du notaire, embrassa toutes les femmes, puis sautant lestement en selle, il regagna ses montagnes. Alors seulement le notaire respira librement. Une demi-heure après arriva un détachement de Miquelet, mais personne n'avait vu l'homme qu'il cherchait. Le peuple espagnol, qui sait par cœur les romances des 12 pères, qui chante les exploits de Renaud de Montauban, doit nécessairement s'intéresser beaucoup au seul homme qui, dans un temps aussi prosaïque que le nôtre, fait revivre les vertus chevaleresques des anciens preux. Un autre motif contribue encore à augmenter la popularité de José Maria. Il est extrêmement généreux. L'argent ne lui coûte guère à gagner, et il le dépense facilement avec les malheureux. Jamais, dit-on, un pauvre ne s'est adressé à lui sans en recevoir une aumône abondante. Un muletier me racontait qu'ayant perdu un mulet qui faisait toute sa fortune, il était sur le point de se jeter la tête la première dans le Guadalquivir, quand une boîte contenant 6 onces d'or fut remise à sa femme par un inconnu. Il ne doutait pas que ce fût un présent de José Maria, à qui il avait indiqué un guet un jour qu'il était poursuivi de près par les Miquelets. Je finirai cette longue lettre par un autre trait de la bienfaisance de mon héros. Certains pauvres colporteurs des environs de Campillo de Arenas conduisaient à la ville une charge de vinaigre. Ce vinaigre était contenu dans des outres, suivant l'usage du pays, et porté par un âne maigre, tout pelé et à moitié mort de faim. Dans un étroit sentier, un étranger, qu'à son costume on aurait pris pour un chasseur, rencontre le vinaigrier, et d'abord qu'il voit l'âne, il éclate de rire. « Mais quelle aridelle as-tu là, camarade ? » s'écrie-t-il. « Sommes-nous en carnaval pour la promener de la sorte ? » et les rires ne cessaient pas. « Monsieur, répondit tristement l'ânier, piqué au vif, cette bête, toute laide qu'elle est, me gagne encore mon pain. Je suis un malheureux, moi, j'ai pas d'argent pour en acheter un autre. » « Comment ? S'écria le rieur. « C'est cette hideuse bourrique qui t'empêche de mourir de faim ? Mais elle sera crevée avant une semaine. Tiens, continua-t-il en lui présentant un sac assez lourd, « il y a chez le vieux Herrera un beau mulet à vendre. Il en veut 1 500 réaux. Les voici. Achète ce mulet dès aujourd'hui, pas plus tard, et ne marchande pas. Si demain je le trouve par les chemins avec cette effroyable bourrique, aussi vrai qu'on me nomme José Maria, je vous jetterai tous les deux dans un précipice. » L'ânier, resté seul, le sac à la main, croyait rêver. Les 1 500 réaux allaient bien compter. Il savait ce que valait un serment de José Maria et se rendit aussitôt chez Herrera, où il se hâta d'échanger ses réaux contre un beau mulet. La nuit suivante, Herrera était éveillé en sursaut. Deux hommes lui présentaient un poignard et une lanterne sourde à la figure. « Allons vite, ton argent !»« Hélas, mes bons seigneurs, je n'ai pas un quarto chez moi. »« Tu mens, tu as vendu hier un mulet de 1 500 réaux que t'as payé un tel de Campillo. » Ils avaient des arguments tellement irrésistibles que les 1 500 réaux furent bientôt donnés, ou si l'on veut, rendus. Post-scriptum, José Maria est mort depuis plusieurs années. En 1833, à l'occasion de la présentation du serment à la jeune reine Isabelle, le roi Ferdinand accorda une amnistie générale, dont le célèbre bandit voulut bien profiter. Le gouvernement lui fit même une pension de 2 réaux par jour pour qu'il se tînt tranquille. Et comme cette somme n'était pas suffisante pour les besoins d'un homme qui avait beaucoup de vices élégants, il fut obligé d'accepter une place que lui offrit l'administration des diligences. Il devint escopetero et se chargea de faire respecter les voitures qu'il avait si souvent dévalisées. Tout alla bien pendant quelque temps. Ses anciens camarades le craignaient ou le ménageaient, mais un jour, quelques bandits plus résolus arrêtèrent la diligence de Séville, bien qu'elle portât José Maria. Du haut de l'impérial, il les harangua. Et l'ascendant qu'il avait sur ses anciens complices était tel qu'il paraissait disposé à se retirer sans violence lorsque le chef des voleurs, connu sous le nom de Bohémien El Gitano, autrefois lieutenant de José Maria, lui tira un coup de fusil à bout portant et le tua sur la place.